Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 15 octobre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, depuis la dernière semaine, quelles sont les nouvelles qui ont retenu ton attention?
Donc, hier, lundi, le marché canadien était fermé, mais le marché américain était ouvert. Le S&P 500 a terminé en territoire, donc à un niveau record historique. C'était la 46e fois cette année que le S&P 500 affichait un nouveau record. Si on se rappelle, tous les savants économistes qui ont prédit des récessions depuis un an et demi, ben, on les attend toujours. Ça va certainement arriver à un moment donné. Mais tout ça pour dire que les marchés performent très bien. Cette semaine, on est en hausse donc de 1,1% sur le S&P, 1,5% sur le TSX. Le Nasdaq, un petit peu moins fort, à une hausse de 0,7%. Donc, tous les indices performent très bien. La nouvelle qui a retenu le plus l'attention aujourd'hui, qui nous concerne tous, je crois, au Canada, le chiffre d'inflation est sorti à 1,6%. Donc, le mois dernier, on était à 2%, ce qui est la cible de la Banque du Canada. Les économistes s'attendaient à une baisse supplémentaire, que ça atteigne environ 1,8%. On sort à 1,6%. Donc là, on est en dessous de la barre de la cible de la Banque du Canada. Donc, les stratèges des différentes firmes de courtage remettent sur la table les probabilités élevées d'une coupe, d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada, peut-être d'un demi-point là, dès la prochaine réunion, un autre demi-point. Qu'est-ce que ça a comme impact, donc, si au Canada, les taux d'intérêt baissent plus rapidement qu'aux États-Unis? Ben, ça a un impact, entre autres, sur notre devise, donc le dollar canadien. On était là au 30 septembre à 73,9. On est à 72,6. Donc, c'est quand même une baisse, là, presque que 2% là, de baisse sur la devise en quelques semaines. C'est beaucoup. Tout ça juste à l'aube de nos snowbirds qui vont retourner aux États-Unis passer l'hiver. Ben, j'espère que vous aviez fait un petit peu de provision de devise là, il y a quelques semaines, parce que le dollar canadien est à la baisse et ça risque de se poursuivre. On débute la saison des résultats financiers. Aujourd'hui, on a eu des banques américaines là, qui ont rapporté de très bons résultats financiers. Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup ont eu des très bons résultats. Le Dow Jones a terminé en forte baisse aujourd'hui. C'est un peu, pas une baisse artificielle, là, c'est une vraie baisse. Par contre, la baisse, on sait que le Dow Jones, c'est un indice qui est pondéré en fonction du prix des actions. Et donc, la plus grosse entreprise sur le Dow Jones, c'est United Health, qui, elle, a eu une très mauvaise journée avec une baisse de 8%. Donc, l'indice Dow Jones là, a été très fortement impacté par un seul titre, alors qu'en réalité, les marchés étaient un petit peu plus mitigés. Le Nasdaq un petit peu plus difficile. Le TSX a quand même relativement bien fait dans la journée. Donc, on s'arrête ici. Là, on va suivre de près les résultats financiers là, dans les prochains 2-3 semaines, là, on pourrait voir un peu plus de volatilité en fonction de comment les profits des entreprises vont évoluer.
Puis je pense que samedi dernier, c'était le deuxième anniversaire du marché haussier.
Exact, creux du marché qui avait été atteint en octobre 2022. Avait piétiné quand même un petit bout de temps, là, début fin de 22, début 23. Ça a vraiment pris son envol un petit peu plus tard, là, mais vraiment le creux a été atteint en octobre 2022, déjà 2 ans. Ça va quand même assez rapidement.
Ça va très, très vite. Donc, merci beaucoup, Martin. Cette semaine, on a pensé élaborer sur un sujet de la valeur des conseils financiers. Donc, on va prêcher pour notre paroisse cette semaine. Évidemment, tout le monde veut en avoir pour son argent, on comprend. Donc, on paye des frais, on veut qu'est-ce qui vient avec ces frais-là. Comment faire pour évaluer la valeur des conseils? Donc, la firme Russell Investment a publié une étude sur le sujet et est arrivée à un résultat bien précis, 3,52%.
Exact.
Quand même très intéressant. Peux-tu nous expliquer comment ils sont arrivés à ce résultat? Parce que tu as lu l'étude, je crois bien.
Oui, c'est une étude là, relativement bref, mais quand même bien expliqué. Il y a 4 composantes à leur calcul. Donc, ils se sont questionnés pour dire, ben tu sais, un conseiller financier, donc un gestionnaire de patrimoine, qu'est-ce que ça fait dans une journée, dans une année pour nous donner de la valeur? Donc, le conseiller, donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour vous? On fait le rééquilibrage périodique de votre portefeuille. Donc, ça, ça a une valeur. On vous accompagne d'un point de vue comportemental dans les marchés baissiers. On vous encourage peut-être à résister à la tentation de vendre. Peut-être qu'on vous encourage à avoir une pondération en actions légèrement plus élevée. Parce que le choix par défaut, bien souvent, c'est d'aller à la banque ou à la caisse puis d'acheter un dépôt à terme. Donc, d'avoir une exposition au marché boursier va ajouter un peu de performance. D'avoir un plan financier personnalisé, ça va permettre aussi d'aller chercher là, une valeur. Et évidemment, la fiscalité, donc de bien structurer les portefeuilles, de prendre des décisions fiscales, va ajouter de la valeur.
OK. Puis le plan financier, bien entendu, influence le comportement aussi. Entre autres, donc, ils sont quand même très interreliés. Peux-tu nous donner plus de détails sur chacun de ces items?
Oui. Donc, au niveau du rééquilibrage, Russell est arrivé à un calcul d'un ajout de valeur de 0,28. Puis là, on dit, hey, 0,28, c'est pas beaucoup. Ben, tu sais, si en moyenne, on charge un frais de 1,25, ben, tu sais, c'est déjà le quart du frais de payer, là, en ayant rajouté ça. Comment ils ont fait pour arriver à ça? Ben, ils ont pris, les 50 dernières années, un portefeuille équilibré 60-40. Si on avait acheté uniquement l'indice tout court, puis on l'avait laissé rouler pendant 50 ans, quel rendement est-ce qu'on aurait obtenu? Et en même temps, faut comprendre que la portion action, étant donné qu'elle performe plus, à un moment donné, on n'a plus un portefeuille équilibré, on devient un portefeuille très croissance parce que notre pondération en action, normalement, va grossir dans le temps. Étant donné qu'on a un portefeuille croissance, on va aussi se retrouver donc avec plus de volatilité. Donc, ce que Russell a fait, c'est de recalculer ben, si à tous les trimestres, je ramène mon portefeuille à 60-40, donc en profitant, en vendant un petit peu des actions quand ça monte puis en rachetant quand ça baisse, si on veut, je vais me retrouver avec un portefeuille qui aura été beaucoup moins volatile. Ils ont ensuite calculé le rendement pondéré selon le risque, donc le rendement par unité de risque supplémentaire, et ils sont arrivés à un écart de rendement de 0,28, donc d'avoir fait du rééquilibrage génère 0,28% de rendement. J'ai dit sur 50 ans, c'est sur 20 ans, pardon.
Okay.
Donc ça, c'était pour la portion rééquilibrage. Le plus gros item qui ajoute de la valeur, c'est l'accompagnement comportemental. Donc, comment on fait pour mesurer le comportement des gens? Évidemment, tout le monde qui écoute la capsule actuellement se dit « ça, c'est pas moi, c'est les autres qui font ça ». Par contre, Russell est allé évaluer les flux monétaires des fonds mutuels et des fonds négociés en bourse. Donc ça, c'est des données qui sont publiques. Donc, il y a combien d'argent qui rentre dans les fonds d'action ou les FNB d'action dans les périodes où les marchés ont baissé, puis il y a combien d'argent qui sort, et ainsi de suite. Donc, ils sont capables de venir calculer en fonction du rendement de l'indice puis des flux monétaires qui sont rentrés et sortis durant les différentes périodes. Bien, quel a été le rendement de l'indice? Ça, c'est facile, mais quel a été le rendement réel de l'argent qui a été investi dans l'indice? Et ils se sont rendus compte qu'il y a un écart de 1,43% de performance entre l'argent réel qui est investi dans les indices au moment où elle est investie et le rendement de l'indice. Et donc ça, c'est, tu sais, on se dit tout, ben c'est pas moi, c'est les autres qui font ça, mais la réalité, ben la moyenne de 1,43, c'est la moyenne de tout le monde, incluant ben vous, moi, puis tous les clients.
Et encore, la planification?
Au niveau de la planification, ben, ils ont comparé, ça c'est un petit peu plus étiré là, comme valeur, de dire que ça, ils ont plutôt évalué ben, c'est quoi le coût de ça, c'est quoi la valeur de ça. Donc, ils ont calculé que l'honoraire moyen d'un planificateur financier, c'est de 1,5% par année, alors qu'un robot conseiller, il y en a différents que vous connaissez, là. Donc, les frais, c'est entre 0,25 puis 0,5. Donc, ils ont pris la moyenne à 0,37. Puis, on dit, ben, si on est prêt à payer 1,5% pour un planificateur financier, alors que ça coûte 0,37 faire gérer son portefeuille soi-même, pas de conseil financier, ça veut donc dire que la valeur des conseils de planification financière qu'on donne, c'est 1,13%. Donc ça, c'est plus une comparaison, pas de rajouter la valeur à la performance du portefeuille, mais quelle est la valeur de ce service-là, combien les gens sont prêts à payer en moyenne par rapport à ceux qui préfèrent ne pas payer ça. Et le dernier item était la fiscalité. Donc, de faire une répartition d'actifs adéquate, de mettre les bons titres dans les bons portefeuilles, d'éviter de déclencher du gain en capital inutilement, de récolter les pertes en capital en fin d'année et tout ça. Tous ces gestes-là, de bien gérer le portefeuille, mais avec une approche fiscale, c'est 0,68% par année. Donc, c'est tous des petits chiffres, hein? 0,28, 0,68, 1,43. Bien, si on additionne tout ça ensemble, le chiffre de planification par-dessus à 1,13, bien, on arrive à un frais, à une valeur moyenne de 3,52, alors que les frais qu'on charge à nos clients, c'est 1,25 selon la taille des portefeuilles. Là, la moyenne nationale, c'est quelque part autour de 1,25. Le coût, c'est 1,25. La valeur, c'est 3,52. C'est l'étude de ressources.
C'est tout très, très théorique, tout ça. Hein?
Ouais.
Est-ce que d'autres études ont confirmé ces résultats?
Donc, il y a une autre étude dont on a déjà parlé il y a quelques années, il y a 2 ans environ, qui était la valeur du gamma. C'est une étude qui a été réalisée par le Cyrano, qui est donc un centre universitaire, là, de recherche universitaire. C'est une étude de Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Brio, publiée en août 2016. Donc, eux, là, il faut comprendre, ils vendent pas de produits. Okay? Mmh. C'est des académiques, ce sont des professeurs. Leur job, c'était uniquement d'analyser la chose, puis de sonder les clients, de fouiller dans les données démographiques des clients ou de la population pour se rendre compte que au bout de 15 ans, donc ils ont fait toutes sortes d'ajustements en même temps que ceux qui ont de l'argent, pas d'argent, des gros revenus, des petits revenus, pour tout niveler tout ce monde-là ensemble. Donc, les investisseurs, les personnes qui travaillaient avec un conseiller financier pendant 15 ans avaient, au bout de 15 ans, des actifs financiers 2,7 fois plus élevés. Donc ça, c'est, si on prend ça, là, au lieu d'avoir 100 000, j'ai 273 000 piastres. Donc, c'est beaucoup d'argent de plus. Et donc, ça, c'est une étude qui est complètement indépendante, qui est disponible, c'est en ligne, c'est gratuit. Si vous faites la valeur du gamma Cyrano Claude Montmarquette, vous allez tomber sur cette étude-là. Amusez-vous à la lire, c'est 50 quelques pages quand même. C'est un peu lourd parce que c'est de la statistique là, purement académique, là, donc c'est un petit peu pesant comme lecture. Mais ça vient un peu valider l'opinion que Russell a émis sur la valeur des conseils.
On va prendre ta parole. Je te fais confiance, Martin. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris et marqué dans ces études?
Ben, il y a une chose qui a été mentionnée nulle part, puis ce qui est frappant, là, nulle part on parle de sélection de titres. Hein? Donc, c'est la valeur qu'on réalise, c'est pas en étant capable de choisir une meilleure entreprise par rapport à l'autre, c'est beaucoup plus relié au comportement dans son portefeuille. Donc, il y a des investisseurs qui vont investir uniquement dans l'indice, il y en a d'autres qui vont sélectionner des bonnes entreprises, mais il n'y a pas une énorme valeur à être capable d'identifier, d'acheter la Banque Royale au lieu de la Banque TD, au lieu de la Bank of America. C'est pas là-dedans qu'il y a une valeur. Fait que faut arrêter de peut-être obséder là, sur la peur de manquer le bateau quand j'ai pas acheté tel titre, j'aurais dû acheter. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment le comportement dans votre portefeuille, la planification financière et la fiscalité, puis le rééquilibrage périodique. C'est ça qui donne la valeur.
Absolument. Ben merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps de lire ces études-là et de le partager avec moi et avec nos clients aujourd'hui. Pour tous nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers ou du sujet du balado aujourd'hui. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.